Et pour ouvrir ce journal, l'information a été très largement commentée depuis ce matin. La tapisserie de Bayeux pourrait être prêtée aux Britanniques, un prêt envisagé dans le cadre de la réalisation du futur centre historique de compréhension et d'interprétation de l'Europe du Moyen-Âge dans la capitale bayeuxaine. Il pourrait alors se dérouler pendant les travaux, lorsque la tapisserie ne serait pas rendue accessible au public à Bayeux en 2022 ou 2023. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'émotions dans le Bessin pour le maire Patrick Gaumont. Cette opération serait une formidable opportunité. Patrick Gaumont.
L'idée, c'est pas de se priver des recettes du musée, puisqu'on voulait continuer à l'exposer, peut-être un peu différemment, mais tout se réfléchit parce que c'est derrière un formidable élan de communication avant d'ouvrir un nouveau musée de tapisserie. La ville est quand même assez favorable, effectivement, à cet engagement du président de la République, puisque ça part de l'Élysée, donc à ce qu'il y ait un prêt donc aux Britanniques, à nos amis britanniques. Et c'est aussi une façon de bien communiquer là-bas et les faire revenir comme visiteurs, puisque on sait que depuis quelques années, le territoire normand a perdu des visiteurs britanniques.
Et on reviendra sur ce sujet de prêt potentiel de la tapisserie de Bayeux aux Britanniques et un peu plus en détail dans nos journaux de demain. Dans les faits divers, un carambolage sur l'autoroute A84 ce mercredi. 8 voitures et un camion sont entrés en collision à hauteur de Gouvet. 4 personnes ont été blessées. La circulation a évidemment été très largement perturbée ce mercredi sur l'A84. Après la ville de Vire, Normandie, c'est au tour de l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse normande de connaître un avis de tempête au sein de ses services. L'association de parents et amis de personnes handicapées mentales concerne 250 salariés et 300 usagers, enfants et adultes, répartis dans différents établissements, IME, ESAT, foyers et masses du territoire, de Ménil-Clinchamp à Condé-sur-Noireau, en passant par Vire et Roulour. C'est donc un conseil d'administration qui dirige l'ensemble des établissements et c'est justement avec cette gouvernance qu'existe le problème des agents, y compris des cadres qui ont été ou sont en arrêt de travail. Et par la voix d'Olivier Jeannot, l'intersyndicale de l'APAEI dénonce des dysfonctionnements.
Depuis de nombreux mois maintenant, des dysfonctionnements avec la gouvernance de l'APAEI, la secrétaire générale et le conseil d'administration envers les salariés et ses directions d'établissement ont conduit à ce que le CE provoque un CHSCT extraordinaire qui a mis en évidence les risques psychosociaux et révélant une désorganisation inquiétante du travail. L'inspection du travail et la médecine du travail sont intervenues lors de ce CHSCT extraordinaire et ont édicté des préconisations spécifiques. Donc jusqu'à ce jour, donc ça c'était au mois de décembre, et jusqu'à ce jour, malgré nos sollicitations, l'employeur reste muet sur le devenir de ces préconisations. Et nous espérons pouvoir, lors du prochain CE qui aura lieu jeudi prochain, obtenir enfin des réponses qui nous permettront de pouvoir envisager un dialogue et un avenir serein au sein de l'APAEI.
Et le comité d'entreprise extraordinaire prévu demain fera peut-être avancer des choses. Donc, 2 mois de prison avec sursis et 500 euros de dommages et intérêts, c'est la peine à laquelle a été condamné un habitant du Plessis-Grimoux dans le Pré-Bocage. Entre 2015 et 2017, cet homme de 73 ans avait menacé de mort ses voisins, n'acceptant pas qu'ils achètent la maison à côté de la sienne. Les élus de la commune déléguée de Vire ont retrouvé les bancs du conseil communal lundi soir. 9 délibérations étaient à l'ordre du jour de cette réunion de rentrée, dont le traditionnel débat d'orientation budgétaire. Celui-ci a fait ressortir une situation financière saine, permettant de développer aussi bien l'offre sportive, salle de gym et terrain synthétique, que culturelle, travaux du musée, mais aussi la cohésion sociale avec la création d'une maison des solidarités notamment, sans oublier la valorisation du patrimoine et la rénovation de l'habitat urbain. Mais pour le conseiller municipal de l'opposition, Jérémy Folly, tout ne va pas si bien. Politique de soins en déclin, baisse démographique, politique urbaine peu attractive. C'est ce qu'a avancé Jérémy Folly lors du conseil communal en s'adressant au maire.
Jusqu'à présent, monsieur Sabater a l'impression que devant lui, tout est un peu facile. Donc il faut aussi de temps en temps lui rappeler qu'il y a une opposition et que nous sommes là pour faire notre travail, ce pourquoi les Virois nous ont élus et ce pourquoi nous serons toujours là pour les Virois dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Vous avez dit que vous ne rencontriez pas visiblement les mêmes Virois. Ceux que vous rencontrez, vous, ils sont pas toujours si contents?
Bah, écoutez, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de Virois, il faut quand même le dire, se questionnent sur l'inquiétude qu'on a sur la politique de santé qui en déclin quand même sur le territoire, les fermetures de certains des magasins, une baisse de la population, il faut le dire, et une politique de l'attractivité. Il suffit de sortir un petit peu pour voir. Sur le champ de foire, nous avons un espace qui devient un petit peu un espace un peu de non-droit où des petits trafiquants se livrent un petit peu à des habitudes qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Voilà, ce sont des problèmes concrets pour les Virois, pour lesquels nous aimerions que la majorité s'attaque et de façon très sérieuse et non toujours dans une autocongratulation perpétuelle. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous ne partageons pas cet avis et beaucoup de Virois que nous rencontrons nous le disent également.
Des propos que le maire Marc-André Sabater n'a évidemment pas partagés. Il a répondu d'une manière assez directe à l'élu de l'opposition, Marc-André Sabater.
Les propos de Jérémy ce soir me paraissait un peu décalé. Quand il nous a reproché globalement la démographie, je lui ai clairement dit que les chiffres que nous avions à notre disposition étaient des chiffres du 1er janvier 2015. Donc s'il avait des reproches à faire, c'était plutôt à l'équipe municipale précédente qu'il fallait les faire et pas à nous. Au-delà de ça, il a évoqué aussi des questions de l'offre de soins. J'ai simplement rappelé l'extrême volontarisme des élus de Vire-Normandie qui ont d'abord mené un projet en cours qui est le pôle de santé libéral et ambulatoire qui donc vise bien à maintenir voire développer une offre de soins sur le territoire. Et j'ai aussi rappelé le choix qui avait été fait du projet des urgences, qui était un choix très ambitieux et à mon avis qui était vraiment susceptible de renforcer l'offre de soins sur Vire, de la maintenir. Malheureusement, ce projet n'a pas pu aboutir pour des raisons qui me paraissent aujourd'hui regrettables, puisque ce qu'on nous faisait craindre si le projet des urgences se réalisait, ce projet de regroupement sur le site de la clinique, eh bien malheureusement est en train de se réaliser sans projet des urgences. Donc nous perdons un service, l'USMC. On nous disait que c'est le projet des urgences qui allait contribuer à sa fermeture. Je constate qu'il n'en est rien. Il y a d'autres éléments que je pourrais mettre en avant. Mais je crains vraiment qu'avec ce projet avorté, nous ayons quand même raté une grande opportunité de renforcer justement l'offre de soins sur le territoire. Donc reprocher aujourd'hui aux élus d'être inactifs, de ne rien faire sur la question de l'offre de soins me paraît évidemment, au regard de ces deux exemples, totalement déplacé, inopportun. Il suffit de regarder ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas sur les territoires voisins pour se rendre compte que les élus de Vire-Normandie, eux, clairement ont pris ces sujets-là à bras-le-corps.
Et lundi soir, le conseil communal a aussi vu l'installation d'un nouvel élu, Yvon Guillouet, remplaçant Guy Barbier, démissionnaire. Début timide pour les soldes d'hiver 2018, une réalité générale qui trouve un exemple très parlant à Bayeux, où l'ouverture exceptionnelle des magasins pour le premier dimanche suivant le lancement de la première des marques n'a pas convaincu les commerçants. Dimanche dernier, très peu d'enseignes bayeuxaines ont joué le jeu, la moitié seulement rue Saint-Malo, une seule rue Saint-Jean. Pour Christine Guittard, responsable de l'enseigne La Fée Maraboutée située rue Saint-Malo, ce sont presque les soldes privés qui ont pris le statut de rendez-vous incontournable entre Noël et la première des marques. Les soldes d'hiver ont un intérêt beaucoup moins grand qu'auparavant.
Beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces ventes privées, il n'y avait pas tous les problèmes Internet. Maintenant, c'est vrai qu'avec ça, il y a moins d'attrait sur les soldes. Il y a moins d'engouement. Nos clientes ont cet avantage de soldes privés en avant-première, donc elles bénéficient encore des détails présentes en boutique. Et après, ce sont les soldes pour tout le monde. Donc non, moi, au niveau organisation, ça ne change rien, puisqu'on est déjà en soldes privés.
Ça a marché, ces ventes privées?
Oui, ça a marché. Ouais. Les clientes étaient contentes d'en bénéficier, comme tout, à chaque fois, quoi. Elles se sentent privilégiées, effectivement. Les ventes privées ont un impact assez important. Après, on draine plus de personnes avec les soldes, ce sont les soldes générales.
Les ventes privées, Internet et ses remises, autant d'éléments qui perturbent le système et qui agacent certains vendeurs. C'est le cas de Sylvain Sade, le patron de Men Women, une boutique indépendante de prêt-à-porter située rue Saint-Jean. Sylvain Sade réclame une réforme des soldes en profondeur et pas seulement une réduction de leur durée.
La vraie solution, c'est de revoir toute la législation. Interdiction formelle, à mes yeux, de faire profiter de ventes privées. Interdiction au site internet de proposer des remises avant les dates. Pourquoi ? Parce qu'on démystifie tout le système et on casse tout. Ah, il y a vraiment de la colère parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça.
Et coup d'envoi donc ce mercredi de la deuxième semaine des soldes. Fait divers avec un habitant de 79 ans qui a chuté du premier étage d'une habitation rue de l'Église dans le bourg de Coulon, un moulin en Bessin, hier midi vers 13h30. Blessé, l'homme a été conduit au CHU de Caen sans que ses jours ne soient en danger. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la chute. Aucune hypothèse n'est écartée, notamment celle d'un geste désespéré. Le sport et le football avec le Stade Malherbe de Caen qui a réussi un très joli coup sur le terrain de Bordeaux hier soir en s'imposant 2-0 au terme d'un match peu emballant. Solide défensivement et solidaire, les Canets se dirigeaient vers un match nul qui les aurait sûrement contentés lorsqu'un imbroglio entre Ivan Santini et le défenseur bordelais Paul Beys a conduit à l'exclusion de ce dernier et à un pénalty sifflé en faveur des Normands. Ivan Santini s'est fait justice à la 88e minute avant de voir Ronny Rodelin doubler la mise au bout du temps additionnel. 3 points de plus qui font 27 dans la besace canaise. Une opération comptable bienvenue avant de jouer Marseille dans 2 jours à Dornano. L'entraîneur canet Patrice Garande avait logiquement le sourire au sortir du match.
Je suis déjà content d'avoir pris 3 points parce qu'ils sont importants compte tenu des échéances du mois de janvier qu'on a. Après, c'est vrai que c'est une victoire qui s'est dessinée sur un fait de jeu que je ne peux pas commenter parce que je ne l'ai pas vu, mais elle me semble quand même méritée sur l'ensemble du match. Après, j'ai beaucoup aimé l'investissement et la prestation générale de l'équipe. D'abord sur le plan défensif parce qu'on n'a pas pris de but, on a été encore une fois très costaud. Et puis sur le plan offensif, dans l'élaboration du jeu, sur le plan technique, c'était bien meilleur que contre Lille. Donc je pense que c'est sur l'ensemble du match, c'est mérité.
Et grâce à ce succès 2-0 à Bordeaux, donc les Canets sont provisoirement 9e de Ligue 1, classement qui pourra évoluer bien évidemment selon les résultats du soir. 7 autres matchs sont en effet prévus aujourd'hui. Hier, le futur adversaire des Canets, Marseille, a battu Strasbourg 2-0. Monaco et Nice ont ensuite fait match nul, 2 buts partout.